Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire. Je suis avec Pauline Testu, que je rencontre pour la deuxième fois, parce que je donne toute la cuisine. La première fois, notre enregistrement était à refaire, donc on le refait avec grand plaisir. Bonjour Pauline, je vous repose évidemment la première question des bulles d'histoire, c'est qui êtes-vous ?
Bonjour, alors je suis Pauline Testu, je suis experte en originaux de bande dessinée à Drouot, c'est-à-dire pour plusieurs maisons de vente aux enchères. Ou études. Et donc voilà, mes journées, je les passe à avoir des planches originales entre les mains, à dire combien ça coûte et à dire ce que c'est parfois, parce que les commissaires-priseurs ne le savent pas forcément.
Ben, on va revenir sur le travail de l'expert.
Mm-hmm.
Quel est le travail d'un expert dans une vente aux enchères ?
Alors, le travail d'un expert, ça va être justement d'avoir des objets en main. Alors, d'une manière plus générale, hein, un expert, c'est quelqu'un qui connaît un domaine particulier, qui le maîtrise, qui est spécialiste, hein, finalement. Donc, le travail de l'expert pour une vente aux enchères, en général, il est appelé par le commissaire-priseur, qui, lui, connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, qui est en général féru, hein, d'histoire de l'art, qui connaît beaucoup de choses, mais sur certains domaines, il peut arriver qu'il y ait besoin d'aide d'une aide extérieure, donc l'aide d'un expert, en l'occurrence moi sur la bande dessinée. Donc il peut arriver sur des successions par exemple, ou sur des particuliers qui amènent, hein, donc des planches, des dessins originaux de bande dessinée. On m'appelle en général pour savoir ce que c'est, combien on va l'estimer et comment on va pouvoir le valoriser dans une vente et le mettre aux enchères.
Alors quelle est la responsabilité d'un expert ? Parce que je sais que vous avez quand même une grosse responsabilité dans le juridique, en fait, juridique et commercial,
complètement,
par rapport aux gens qui vendent et par rapport aux gens qui achètent.
Alors, ma responsabilité en tant qu'expert, c'est de dire oui, il s'agit bien de tel artiste, oui, c'est une planche originale, ce n'est pas une photocopie, ou c'est un dessin original, et d'avoir le contexte historique autour de cet original. Alors, le rôle d'un expert aussi, ça peut être d'être appelé, pas forcément pour des ventes aux enchères, mais aussi pour des inventaires de succession, pour parfois des dons à des musées, pour des inventaires pour assurance, expertise pour assurance, sur certaines collections. Donc, on a quand même des missions un peu diversifiées.
Et vous cherchez, j'imagine, ce qui est faux, ce qui est vrai,
tout
même si
fait.
Dans la bande dessinée, il y a peu de faux quand
Alors,
même.
Alors, il y a des faux en bande dessinée, hein. Il faut savoir que dès qu'un domaine brasse un petit peu d'argent, et puis les ventes aux enchères d'originaux, les ventes tout simplement d'originaux de bande dessinée, ça existe depuis pas mal de temps. Ça existe depuis, je dirais, milieu, fin des années 80. Hein. Donc, dès qu'il y a de l'argent, il y a des petits malins qui vont essayer de faire des faux. Donc, évidemment, je vois passer régulièrement des fausses dédicaces d'Hergé. Il peut y avoir aussi des faux Hugo Pratt. Il y a des faux, quand même, hein, dans la bande dessinée.
Hergé et Pratt sont les plus copiés.
C'est ceux que je vois le plus souvent, en tous les cas, dans ma boîte email. Il peut y avoir des faux Uderzo aussi. J'ai vu un faux Kiraz, un jour, qui était... alors, c'était un torchon en lin, qui avait été tendu sur toile, où on avait rajouté de la peinture pour faire comme si c'était un vrai. Donc c'était assez amusant, c'était assez grossier, mais voilà, ça arrive.
Et comment réagissent les gens qui se font attraper ? Parce que c'est un délit quand même de déclarer une œuvre originale alors qu'elle est fausse.
Mais la plupart du temps, ce sont des particuliers, donc là ils n'étaient pas au courant, ils avaient acheté ça sur une brocante. Il y a des gens qui n'ont pas l'œil pour les faux, forcément, qui sont en général de bonne foi, et voilà, moi, ça m'arrive dans les brocantes de voir des faux franquins qui sont assez évidents pour moi, mais qui ne le sont pas pour tout le monde. Voilà.
Alors, qu'est-ce que vous risquez si vous laissez passer un faux, par exemple ?
Bah, j'engage ma responsabilité d'expert, et dans ce cas-là, enfin, pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé, mais quand il y a suspicion de faux, en général, on retire. On vérifie parfois auprès des ayants droit, on se concerte, on y réfléchit, voilà.
Parce que comme pour
Il faut que la vente soit annulée, du coup.
Parce que comme pour les œuvres d'art, les autres œuvres d'art, mm-hmm. Il y a les familles qui délivrent des certificats.
Oui, tout à fait.
Uderzo, par exemple.
Alors,
ou
oui.
le, la société Moulinsart, on le...
Alors, bah, effectivement, Moulinsart, maintenant Imaginatio SA, fait très très attention à ce qui passe en enchères un peu partout. On est aussi, on fait attention aussi au visuel, hein, parce qu'il faut savoir que les visuels des œuvres d'Hergé ne sont pas libres de droit. Donc il y a des choses à faire avec eux, et puis ils sont assez vigilants là-dessus. C'est les plus vigilants, parce que c'est quand même une grosse machine, hein, l'œuvre d'Hergé, donc voilà.
Alors vous êtes experte en bande dessinée, qu'est-ce qui se vend dans une vente aux enchères de bande dessinée? Quels sont les types d'objets, de dessins?
Alors, dans une vente aux enchères de bande dessinée, vous avez trois choses. Vous avez d'abord les originaux, même quatre choses, hein, les originaux, pardon, les planches originales, les dessins originaux, ça peut être la couverture, ça peut être la planche 4 du tome 6, voilà. Vous avez aussi parfois des crayonnés, des storyboards, ce genre de choses, hein, tout ce qui participe à la vie d'un album. Vous pouvez avoir des dessins qui ont été faits autour de l'album pour des ex-libris, ce genre de choses. Vous avez dans un deuxième temps les albums. Alors les albums, c'est pareil, hein, les valeurs diffèrent énormément selon que vous ayez. Si vous avez une collection d'albums contemporains, je vous dirais pas forcément que c'est intéressant aux enchères, sauf s'il s'agit de tirages de tête extrêmement rares avec des très belles dédicaces, par exemple. Vous avez donc les albums dédicacés. Est-ce que c'est une édition originale? Est-ce que c'est une réédition? Ça, ça joue aussi. Sur les Tintins, c'est encore plus complexe, hein, évidemment, ça dépend de l'année. L'état est extrêmement important, évidemment, de plus en plus d'ailleurs. Vous avez aussi dans un troisième temps les objets dérivés. Ça peut être des pixies, ces petites figurines en plomb, hein, qui sont absolument charmantes et qui doivent bien être avec leur boîte et certificat et en très bon état. Mais il y a des ventes de collection Pixie, vous avez les figurines Le Blond de Lienne, ce genre de choses, Atacus, etc. Et vous avez, par exemple, les bustes de Tintin, de Jean-Marie Pigeon, qui ont une grande, grande valeur, voilà, vous avez des choses extrêmement rares. Donc voilà, je crois que j'ai fait le... Ah oui, et vous avez la quatrième catégorie, qui sont les multiples. Donc les multiples, ce sont les lithos, les sérigraphies, les offsets, etc. Là encore, la valeur dépend de la rareté, de l'état, bien évidemment. Un offset de Hergé pour le WWF ne va pas se vendre au même prix qu'un poster qui a été édité à 300 exemplaires, voilà, même si c'est signé. Donc voilà, c'est il y a une variété de choses assez.
Pour préciser ce que sont les pixies et les petites figurines, sont oui. Des petites figurines qui sont faites à partir des personnages d'albums.
Alors tout à fait.
Ou des scènes carrément.
Pixie, c'est une entreprise qui a commencé il y a un bon moment déjà, et eux, ils ont commencé par s'inspirer des. Alors déjà leur méthode de faire fabrication est inspirée des soldats de plomb. On est sur le même type d'objet. Ils ont commencé à faire les petits métiers parisiens. Ils ont travaillé pour la mode aussi, les grandes maisons de couture qui commandaient des petites figurines à l'effigie de leur création. Et ensuite, ils se sont attaqués à la bande dessinée. Il y a eu beaucoup de choses sur Hergé, sur Tintin, sur Astérix, sur Gaston, sur Franquin, etc. Donc ce sont des objets de collection. Il y a certains collectionneurs qui en ont 1500, 2000, hein, qui ont des pièces dédiées, même, c'est assez merveilleux. Et d'ailleurs, Antoine Decaune est fan des Pixies, il vient de sortir un livre là-dessus, pour la petite anecdote.
Pour revenir aux albums, ce qui est assez fascinant, c'est de voir des albums de Tintin, notamment les premiers, les premières éditions. Alors certains avec des dos, certaines couleurs.
Tout à fait. Il y a
tout un panel d'albums de Tintin. Et là, on atteint des prix qui sont quelquefois plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Tout à fait. Donc, sur les éditions rares, hein, typiquement les OGO, Tintin en Amérique, ce genre de choses. Alors si vous avez un grenier avec des albums de Tintin, regardez bien si le dos est toilé, s'il s'agit d'éditions noir et blanc, ça peut être intéressant. Alors, à savoir qu'il y a aussi des facsimilés, hein, des éditions originales, donc attention à ça aussi. Enfin voilà, c'est un monde assez merveilleux, plein de surprises parfois.
Alors, comment dans les ventes aux enchères, on vend, donc on parle forcément de prix.
Tout à fait.
Vous pouvez nous faire un petit panel à la fois des prix rapidement, hein.
Et de vous,
quand vous avez vendu, quel est votre record, par exemple?
Alors, moi, mon record, c'était il y a 5 ans, avec mon binôme, qui était Christophe Fumeux, hein, qui est un expert senior avec qui j'ai commencé à travailler il y a 5 ans. Donc, c'est lui qui m'a un peu mis la main à la pâte. Hein. Moi, j'ai commencé en galerie, dans une très très bonne galerie, par ailleurs, qui est la galerie de 9e art à Paris. Il faut savoir qu'il y a 4 ou 5 galeries spécialistes en originaux de bande dessinée à Paris. Il y en a aussi en Belgique, bien évidemment. Et donc, on a mis la main sur un... Enfin, on nous a apporté un petit carnet relié de cuir, format un peu plus que du A5. Et donc, il y avait... c'était un journal intime. Donc, c'était une femme, pendant la guerre, qui parlait à son enfant qui venait de naître. Donc, c'est absolument adorable. Hein. On a les premiers pas, voilà, les premiers pleurs, les premières nuits, etc., etc. Et au milieu de ce carnet, on a... l'écriture change. On retrouve l'écriture d'Hergé avec toute une page où il parle à cette petite fille, évidemment. Il se trouve que Hergé est un ami de cette famille. Et donc Hergé fait tout un petit texte et fait un dessin avec Tintin, Haddock, tous ces personnages en procession. Il s'agit d'un dessin à l'encre de Chine et à l'aquarelle. Et donc c'est absolument magnifique parce que d'une part ça n'a jamais été vu, d'autre part la provenance est complètement béton. Donc on n'a aucun doute sur l'authenticité, et puis même le dessin est parfait. Et donc je crois qu'il a fait aux alentours de 60 000 euros ce dessin. Voilà, c'était mon record. Là récemment, j'ai vendu une planche de Jean Giraud de Blueberry, qui était assez belle, estimée 10-15 000 euros, qui a fait avec les frais 30 000 euros. Mais dans mes ventes, je fais attention, j'aime bien, à titre personnel, avoir des choses avec des estimations un peu différentes, parce que les enchères ont parfois cette image très élitiste, qui est assez, alors qui peut être vrai dans certains cas, évidemment, tout le monde ne peut pas acheter des tableaux à 100 000 euros ou des dessins à 60 000 euros, mais il faut savoir que si vous passez les portes de Drouot, déjà tout le monde peut y rentrer, vous avez des choses à 30, 40, 50 euros. Moi, dans mes ventes, j'ai des affiches à 30 euros, j'ai des lots à 100 euros avec les albums, j'ai un peu de tout, de toutes les estimations, pour que tout le monde puisse un peu y trouver son compte.
Oui, parce que quand on construit une vente aux enchères, moi, j'en ai vu quand même pas mal, ce que j'ai toujours trouvé intéressant, c'est qu'il y a une sorte de dramaturgie dans la vente.
Complètement.
Il y a un rythme, il y a presque un scénario écrit.
Complètement. La vente aux enchères, c'est un spectacle. Je recommande à tout le monde d'aller voir ça au moins une fois dans sa vie. C'est assez drôle en général. Vous avez des commissaires priseurs qui sont des vrais showmen ou des showwomen. La vente aux enchères, c'est une amie qui disait ça, c'est la rencontre de deux volontés, celle du vendeur et celle d'un ou plusieurs acheteurs. Et effectivement, ça peut être calme, mais là, si vous avez trois personnes qui veulent le même objet en même temps, il y a quelque chose qui se passe, l'adrénaline monte, le moment est assez extraordinaire. Et alors, pour dériver aussi sur les enchères en général, si vous arrivez à voir un moment où une enchère est emportée et que quelqu'un se lève dans la salle pour faire préemption, alors ça c'est le top du top. Parce que là, il y a beaucoup de sentiments en même temps. Et c'est assez chouette à voir.
Oui, la préemption, c'est des musées, notamment.
Alors, c'est un musée.
Ou des grandes bibliothèques.
Voilà, par exemple, vous avez une vierge médiévale qui va être adjugée, je sais pas moi, 120 000 euros. L'acheteur est content, il a lutté, hein, il y a eu trois téléphones, etc., etc. Et là, il y a une personne qui se lève en fond de salle, qui dit « je fais préemption pour tel musée, etc. » Donc voilà, l'acheteur n'est pas forcément content, mais le musée, oui. Et puis c'est quand même assez prestigieux d'avoir quelque chose qui part dans un musée, et c'est assez démocratique finalement.
Il y a des préemptions en bande dessinée de
Francine, ça, honnêtement, j'en ai pas vu moi dans mes ventes. Tout est possible, hein, mais pour l'instant, je n'en ai pas vu.
Alors la bande dessinée, comment on devient experte en bande dessinée? Comment on tombe dans cette marmite à côté d'Astérix?
Alors on tombe dans la marmite très tôt.
Hein, quand vous étiez petite.
Voilà. On tombe dans la marmite très tôt. Peut-être qu'on lit des choses qu'on ne devrait pas lire à 8 ans. Hein, Reiser, Gottlieb et compagnie. Bretéché, Tintin, Astérix évidemment. Voilà, c'est une passion que j'ai depuis longtemps. J'ai toujours été sensible au dessin. Et j'ai vécu à la campagne. Où il n'y avait pas forcément beaucoup de choses à faire. Donc j'avais trois quarts de bibliothèque, et j'allais tous les mercredis à la bibliothèque de la ville la plus proche. J'avais celle de ma mère, celle de mon frère et la mienne, parce qu'on était limités, on ne pouvait pas tout emprunter, donc ça me permettait d'emprunter au moins 15 BD par semaine, que je finissais en général en deux jours, et que je ramenais la semaine d'après. Donc je me suis un peu intéressée à ça, j'ai fait l'école du Louvre, qui est une très bonne école, mais on ne parle pas forcément de bande dessinée, même si on s'intéresse au dessin, et il y a beaucoup de parallèles à faire entre le dessin ancien et la bande dessinée. Et donc j'ai commencé en galerie, et ensuite j'ai rencontré donc Christophe Fumeux, avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans et demi, et depuis 2 ans, je mène l'aventure solo.
Alors, quels sont vos auteurs préférés actuels et quels sont les auteurs que vous aimez vendre?
Oh là là, ça c'est compliqué parce que je suis vraiment une boulimique de lecture, donc je lis tout ce qui me passe dans les mains. Récemment, j'ai beaucoup apprécié. Alors, j'adore Claire Bretéché, vraiment. J'ai acheté un album en brocante et j'ai découvert 2 semaines après qu'il y avait une petite dédicace dedans, donc j'étais ravie. C'est le genre de bonne surprise qui arrive de temps en temps. Gottlieb, vraiment, c'est pour moi c'est un dieu. Franquin évidemment.
Gottlieb, c'est un dieu. Ouais.
Ah oui. Après, voilà, auteurs contemporains, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce serait ne pas leur faire justice que d'en citer deux ou trois. Récemment, j'ai lu le dernier Chloé Cruchaudet, qui parle de la vie de la gouvernante de Proust, qui était absolument fabuleux. J'ai lu Mécanique céleste, tome 2, de Merwan Chaban, que j'adore. Enfin, voilà, je lis beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup les Carrascoët. J'aime beaucoup le dessin en lui-même. Qu'est-ce que j'ai lu? Enfin, voilà, je lis tout. Je lis tout. J'ai relu hier, figurez-vous, j'ai relu Le Sommeil du Monstre de Bilal, qui était une découverte étant adolescente. Pour mes 18 ans, on m'a offert un artbook Bilal, d'ailleurs. Bon, ça remonte.
En parlant de Chloé Cruchaudet, moi, je l'ai interviewée plusieurs fois. Maintenant, elle est passée au numérique.
Oui.
C'est-à-dire qu'elle dessine sur tablette. Il n'y a pas d'originaux en tant que tel, il n'y a plus de dessin, il n'y a plus de papier. Est-ce que ça va être vendable un jour, les fichiers numériques?
Alors, ça, c'est une vaste question. Moi, je sais que je suis très... Mais j'ai une formation classique, hein, École du Louvre, voilà. Donc, je suis assez attachée aux papiers, aux originaux. C'est vrai que beaucoup d'auteurs utilisent le numérique. On peut les comprendre. Ils ont des cadences de création. Un album, c'est très long. La couleur, c'est très long aussi. Je comprends que les auteurs soient au numérique. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des auteurs, maintenant, qui font des originaux spécifiquement pour les expositions en galerie, qui se vendent bien. Donc... C'est un vaste sujet. Moi, je pense qu'il y a aussi des auteurs qui reviennent parfois, qui font l'inverse, qui reviennent du numérique au papier parce qu'ils savent très bien que les originaux, c'est un moyen aussi de gagner leur vie. Ça se vend, c'est une œuvre d'art, ça peut permettre d'entrer dans le marché de l'art. Donc la question est ouverte. Ça dépend des auteurs, ça dépend de ce qu'ils aiment aussi. Hein. Il y en a qui détestent le numérique, il y en a qui ne jurent que par cela. Je pense à Arthur Depince qui est uniquement sur Illustrator pour ses albums, qui a fait il y a un an et demi une exposition avec des originaux, où il s'est remis aux originaux et donc il y a eu un livre édité là-dessus. Donc pour moi, c'est pas forcément cloisonné. Hein. Après, est-ce que les fichiers numériques se vendront? Ça, c'est une autre histoire. Moi, c'est pas du tout... Je ne connais rien aux NFT et ce genre de choses. Je ne sais pas.
Oui, je pensais à ça, parce que là, les NFT se sont écroulés, ce qui est assez logique, d'ailleurs. On a quasiment disparu des ventes. Donc, c'est intéressant de faire le parallèle, parce que là, on a, au bout du compte, une vraie création, un album, au final, imprimé, avec une histoire.
Ouais.
Là, c'était une question. Et est-ce qu'on a autant de plaisir à vendre un original de Blueberry qu'un petit pixie ou qu'un dessin d'un auteur inconnu?
Alors ça dépend aussi de... Bah, j'ai un public, alors faut parler du public aussi, parce que vous parlez du numérique. Moi, mon public, il est beaucoup, beaucoup attaché au papier. Hein, c'est une sorte de génération aussi. Bon, je vous cache pas que j'ai un petit plaisir à vendre une planche de Moebius à 30 000 euros, parce que je sais que le vendeur va être très content, et ça aussi, c'est agréable, parce que s'il y a des gens à qui je travaille que j'apprécie par ailleurs, la relation commerciale se passe bien, et c'est hyper agréable. Mais je suis contente aussi. Là, j'ai un client qui était assez jeune, qui s'est acheté une sérigraphie. Il était hyper ravi. C'était son premier achat en enchère. Et donc ça, c'est génial aussi.
Oui, parce que comme vous disiez, en BD, on peut se faire plaisir à des prix
complètement
très 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 raisonnables.
Hein. Bien sûr, bien sûr. Après, tout dépend du budget. Mais moi, il m'arrive d'acheter des dessins à 300 euros. Bon, alors tout le monde ne les a pas, hein, mais comparé à, vous avez par exemple des photos éditions limitées qui sont beaucoup plus chères. Donc bon, après ça dépend du budget, de l'envie de chacun, mais tout est possible. Hein. Là, j'ai acheté en province, j'ai acheté un lot d'albums à 30 euros et je suis très contente parce que j'aurai la lecture pendant un certain temps. Pour revenir donc au plaisir que j'ai à vendre, plus généralement, j'ai un plaisir à travailler dans ce que je fais parce que je vois des belles choses. Que je discute avec des passionnés. Hein. Il y a des gens qui connaissent le milieu depuis 40 ans, qui ont plein d'histoires. J'aime bien travailler aussi parfois en direct avec les auteurs. Donc c'est ce que j'ai fait là pour Angoulême, qui pour la deuxième édition, enfin la deuxième fois, a organisé une vente aux enchères, qui était un événementiel directement avec les auteurs. Donc là, pour le coup, on a eu 50 lots qui nous étaient proposés par les auteurs eux-mêmes. Donc ça, c'était assez, assez sympathique. Donc voilà, après le public des acheteurs, il est assez varié, même si on a quand même un noyau dur qui est plutôt masculin, d'hommes de 50-60 ans à peu près. Mais moi, j'aime bien faire évoluer ça aussi. J'aime bien en parler à mes amis. Je fais faire des visites à Drouot pour leur montrer un peu ce que c'est. J'ai des primos, enfin, je sais pas comment on peut dire ça, mais des gens qui n'avaient jamais acheté aux enchères. C'est arrivé à Angoulême, hein, on a eu des gens qui n'avaient d'une part jamais acheté d'original de bande dessinée, d'autre part jamais acheté aux enchères, qui étaient absolument ravis. Alors c'est vrai que ce public-là, il est un peu plus séduit par les illustrations plutôt que les planches. La planche, c'est dans un deuxième temps. C'est quelque chose qui est un peu moins facile peut-être pour eux à mettre au mur. Donc les petites illustrations, les dessins ou les couvertures, ça c'est vrai que ça a plus de force chez eux.
Oui, parce que moi je vous parlais du plaisir de vendre, mais le plaisir en fait finalement il vient de tout ce qu'il y a avant la vente quasiment.
Oui, pendant.
Parce que ça prend beaucoup de temps à monter une vente.
Ça prend un certain temps. Moi ça me prend 3-4 mois. Pour des ventes entre 300 et 400 lots, parce qu'il y a un catalogue papier, parce qu'il y a de la communication autour. Pendant la vente, il y a toujours cette part d'incertitude. Ça, c'est les montagnes russes du métier. Il y a des choses, on sait que ça va marcher, et il y a des choses, on peut avoir des surprises. Voilà. Au dernier moment, et ça, c'est vraiment ce qui fait le sel des enchères.
Pour finir, est-ce que vous pouvez nous parler de votre prochaine vente? Parce que je crois qu'il y a une vente dans 2-3 mois, au mois de juin.
Tout à fait. Alors là, je sors d'un marathon, un mini-marathon de 3 ventes, donc, parce qu'il y a eu la vente d'Angoulême, j'ai fait une vente chez Tajan, et ensuite il y a eu une vente à Drouot. Et là, je prépare la prochaine vente. Alors, j'aurai une vente en juin à Drouot, j'aurai aussi une vente chez Auger Blanchet d'une succession avec des planches, par exemple, de Bug Dany, et un fonds Jean Sidobre, hein, qui est un illustrateur qui a fait, par exemple, des couvertures pour Alice, de la Bibliothèque Verte, entre autres, hein, et qui a fait aussi des planches érotiques, donc rien à voir. Et voilà, il y a des choses qui arrivent un petit peu au fur et à mesure, hein, au gré des particuliers qui proposent des choses aux études. J'ai aussi eu la chance d'expertiser une planche de Corto Maltese qui passera le 5 avril chez Drouot Estimation, donc une planche des Éthiopiques qui est assez sympa, je dois dire. Et voilà.
Donc vous êtes experte en bande dessinée. Mm-hmm. Vous êtes la seule femme, je crois, à être experte. Il n'y a pas beaucoup d'experts en bande dessinée, mais en plus, il n'y a qu'une femme, c'est vous.
C'est vrai. Il y a quelques experts quand même. Hein. Je pense à mon collègue Florian Bourguet, avec qui je m'entends extrêmement bien et qui ont travaillé ensemble de temps en temps. Non, il y a des experts depuis un moment. Hein. Comme je le disais, le marché existe depuis maintenant plus de 40 ans. Il y a eu beaucoup de maisons qui se sont intéressées à ce marché. D'ailleurs, à un moment, en 2016-2017, il y avait Christie's, Sotheby's, Arcurial, qui se faisaient concurrence un petit peu. Enfin voilà, il y a eu des très belles ventes. Il y en a toujours d'ailleurs. Oui, je suis la seule femme, pour l'instant, en tout cas.
Et est-ce que le monde des experts en général se féminise?
Alors ça, je peux pas dire parce que c'est un monde très très vaste. Hein. Vous avez des tas de disciplines. Je sais que pour les commissaires-priseurs, c'est le cas. Mais comme dans beaucoup de professions qui étaient avant très masculines, voilà, ça va dans l'ordre des choses qu'il y a un peu de féminisation. Pour les médecins, par exemple, c'est le cas. Voilà, ça avance.
Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vente.
Je vous remercie et je vous dis à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Waouh! Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.